7.9.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 décembre. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, cette question: faut-il maintenir les visites dans les maisons de retraite en pleine cinquième vague de Covid? Nous serons dans un EHPAD du département de la Sarthe. Tout cela juste après les autres titres, Pierre.
Vous avez toutes les prédispositions pour devenir un dictateur. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, offensif face à Éric Zemmour hier soir sur France 2. La disparition des libellules sur notre planète. L'Union internationale pour la conservation de la nature donne l'alerte. Quatrième victoire pour les handballeuses françaises au Mondial, cette fois contre la Pologne. Les quarts de finale en vue.
Les invités et les rendez-vous de la matinale d'Inter ce matin. 7h45, le débat éco. Le vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, nous parlons des 20 ans de l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et puis à 8h20... le grand entretien de la matinale avec le président du RN, du Rassemblement National, Jordan Bardella, sera notre invité. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Près de 57 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Nouvelle illustration de la vague épidémique qui touche la France. Alors certains directeurs d'EHPAD se demandent s'il faut maintenir les visites dans leurs établissements, même si 80% des résidents ont reçu leur dose de rappel, selon le gouvernement. Dans le département de la Sarthe, on garde les portes ouvertes aux familles pour le moment. Pas question d'isoler, en particulier à l'approche des fêtes, Julien Jean.
C'est par exemple la position adoptée par Isabelle Mangard, la directrice de l'EHPAD Beaulieu au Mans.
Les personnes viennent avec le pass sanitaire. Si elles respectent bien les gestes barrières, on estime qu'il y a peu de risques. Donc pour l'instant, tant que nous, on n'a pas de Covid au sein de l'établissement, on ne suspend pas les visites.
Pour Francis Hénault, président de Génération Mouvement, il faut absolument maintenir l'accès aux maisons de retraite.
Parce que nos aînés qui y sont ont besoin de la visite de la famille, des petits-enfants, etc. J'ai personnellement, moi, une frangine dans le Nord, et ben je vais y retourner à Noël, et puis j'espère bien aller lui dire bonjour. C'est un minimum.
Car quasiment tous les résidents sont désormais vaccinés. Mais on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé, dit Benoît Lemoyle, directeur de l'EHPAD Bonnières-Saint-Aldric, où 25 salariés avaient été contaminés et 15 résidents décédés en 4 semaines lors de la première vague.
Il faut vraiment se rappeler ça. Hein. 30% des pensionnaires ont été touchés et malgré toutes les précautions, une majorité nous ont quittés. Hein. Et brutalement et difficilement, tous nos établissements de soins ont vraiment vécu cette période très douloureusement.
Pour autant, il a choisi de laisser les visites. La difficulté, explique-t-il, ce sont surtout les sorties des résidents dans leur famille où aucun contrôle n'est possible. Il appelle donc chacun à la plus grande vigilance pour ne pas avoir à refermer son établissement.
243 malades du Covid entrés en réanimation ces dernières 24 heures. Ils sont plus de 2400 désormais. Le plan blanc déclenché dans 7 régions qui permet de réquisitionner des personnes dans les hôpitaux. Nous sommes à Nancy dans le journal de 7h30. Cette cinquième vague de Covid a des conséquences sur le secteur de la culture également, durement touché pendant des mois. Et alors que les salles de spectacle restent ouvertes grâce au pass sanitaire et au port du masque. Mais l'inquiétude règne en cette fin d'année, période aussi propice que l'été, car les annulations se multiplient, Stéphane Capron.
Entre les producteurs qui invoquent le Covid pour reporter des spectacles qui ne remplissent pas ou les annulations légitimes de grandes institutions qui doivent suspendre les représentations à cause de cas de Covid dans les équipes artistiques comme la Comédie Française ou les Amandiers à Nanterre, la situation est surtout délicate pour les intermittents. Timo Metzmakers est contrebassiste à Bordeaux. Tous ses contrats sont tombés à l'eau en quelques jours.
Là, récemment, j'ai eu un SMS qui m'a annulé mon dernier concert. Raison invoquée, c'était l'absence de réservation. Ça peut être des pressions des organisateurs qui nous appellent et qui nous disent qu'on leur a très très fortement suggéré de ne pas faire cet événement, donc qu'ils se voient dans l'obligation de l'annuler.
Hervé Nombalier chante dans un orchestre dans les Deux-Sèvres. Il lui reste encore quelques contrats pour des balles, pour des comités d'entreprise, mais il sent que la situation est fragile.
On nous invoque pour les CSE des mails qui viennent des directs, notamment, donc le ministère du Travail en région, qui recommande très fortement de ne rien faire. Concernant les sapeurs-pompiers, ce sont les SDIS, via des mails qu'ils reçoivent eux-mêmes des préfets, envoient aux casernes en disant « vous ne faites rien, c'est mieux ».
Les organisations syndicales, dont la CGT, demandent au ministère de la Culture de rouvrir en urgence une négociation pour prolonger les aides des intermittents du spectacle.
Stéphane Capron, France Inter, 7h05. Un débat animé hier soir sur France 2 entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire.
Une heure et demie de désaccord et d'échange parfois tendu, souvent même entre le candidat à la présidentielle et le ministre de l'économie, Anne Souhaitemont.
Relance économique.
Vous enfoncez les portes ouvertes.
Ben voyons.
Tarif de l'électricité.
Attendez, la question est très importante. Monsieur Zemmour, vous ne voulez plus du tarif régulé ?
Non.
Institution.
Le général de Gaulle avait lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir dictateur.
Mais c'était pas un dictateur.
Je pense qu'à 63 ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir.
C'est un Bruno Le Maire offensif qui fait face au candidat Zemmour, jusqu'à le faire sortir une première fois de ses gonds sur le financement de sa mesure phare en termes de pouvoir d'achat.
Comment financez-vous ?
Ne prenez pas des grands airs quand vous parlez de financement du budget, mais parce que vous avez porté le déficit à des niveaux jamais vus dans l'histoire de France.
Après un long échange, houleux, sur la place des musulmans de France.
Vous ne leur tendez pas la main, M. Zemmour.
Je vous ai pas les interrompu.
Vous leur adressez une gifle en pleine
figure. Pas du tout.
Bruno Le Maire refuse de quitter le plateau avant de pouvoir poser sa question à Éric Zemmour.
Le 16 juillet 2022, nous fêterons le 80e anniversaire. Nous célébrerons plutôt. De la déportation du Vel'd'Hiv, Jacques Chirac a reconnu les crimes de l'État français sur les citoyens français ou étrangers juifs. Reviendrez-vous sur la déclaration du président Jacques Chirac ?
Je ne referai pas ce discours.
Grand remplacement, réhabilitation de Philippe Pétain, incompatibilité de l'islam avec la République. Désormais candidat, Éric Zemmour reste constant sur ses fondamentaux.
Et Marine Le Pen, de son côté, la candidate Rassemblement National à la présidentielle, se dit d'accord pour un débat avec Éric Zemmour. Information de nos confrères de France Info. Pas encore de date, mais début février fait partie des options envisagées. Il y aura une vie ensemble, quel que soit le choix des Néo-Calédoniens dimanche. Propos d'Emmanuel Macron à deux jours du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Un scrutin le troisième en trois ans. Les indépendantistes du FLNKS appellent au boycott des urnes en raison de la crise sanitaire. Eux voulaient un report à septembre 2022. Des licences de pêche d'ici ce soir ou des sanctions, la menace de la France au Royaume-Uni afin de pouvoir travailler dans les eaux britanniques. Mais nous n'avons jamais fixé de date butoir, dit Londres, qui rejette l'échéance fixée à aujourd'hui par la Commission européenne pour régler ce litige. Ce sont deux journalistes qui vont recevoir aujourd'hui à Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix, le russe Dmitri Muratov et la philippine Maria Ressa, récompensée pour leur combat en faveur de la sauvegarde de la liberté d'expression. Maria Ressa, c'est la cofondatrice d'un site d'information très critique à l'encontre du président philippin. Les pressions, les menaces qu'elle subit dans son pays ont tout simplement failli l'empêcher de venir recevoir son prix, Claude Guibal.
À son arrivée à l'aéroport d'Oslo, on a d'abord vu son masque noir barré d'un slogan « Le journalisme n'est pas un délit ». Puis son émotion, ses yeux au bord des larmes. Il y a quelques jours encore, Maria Ressa, en liberté conditionnelle, ne savait même pas si elle pourrait recevoir son Nobel en main propre. Avec cette procédure judiciaire en cours, dont la dernière pour diffamation a été intentée par un secrétaire d'État la semaine dernière, Maria Ressa a dû obtenir l'aval de quatre tribunaux différents pour pouvoir se rendre à Oslo. Et cela malgré les recours intentés par les avocats du pouvoir philippin qui invoquait le risque de fuite. Maria Ressa, cependant, l'espère, le Nobel pourrait peut-être changer les choses.
The light is a shield.
Être dans la lumière, dit-elle, c'est un bouclier. Ça a redonné de l'énergie aux journalistes des Philippines qui en ont tant besoin, mais aussi à tous les journalistes du monde entier. Une étincelle qui montre à quel point faire ce métier est difficile et les dangers auxquels on doit faire face. Des dangers pourtant toujours aussi grands. Il y a deux jours, un autre journaliste philippin a été abattu d'une balle dans la tête. Lui aussi avait dénoncé, comme Maria Ressa, les violences liées à la guerre contre la drogue initiée par Rodrigo Duterte, campagne qui, selon les organisation de défense des droits humains a fait des dizaines de milliers de morts.
Claude Guibal, le Nicaragua rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan. C'est une partie inaliénable du territoire chinois, écrit le gouvernement pour justifier sa décision surprise. Les États-Unis appellent les pays démocratiques à accroître leurs liens avec Taïwan. La question de cette île empoisonne les relations entre Washington et Pékin. Retour en France, Pierre Ménès sera jugé le 8 juin pour agression sexuelle. L'ex-chroniqueur de Canal+ est sorti de garde à vue hier soir. Une femme a signalé des faits sans pour autant porter plainte. C'était fin novembre, après le match de Ligue 1 PSG Nantes. Attention aux chutes de neige en Savoie, Haute-Savoie, dans l'Ain et en Isère. Quatre départements placés en vigilance orange par Météo France. Et de nombreux camions sont actuellement en portefeuille le long de l'autoroute A38 en Bourgogne. Autoroute qui reste ouverte pour le moment. 7h10 sur France Inter. On aime les regarder lors d'une balade près d'un étang ou d'une rivière. Et pourtant, les libellules disparaissent peu à peu de notre planète car elles n'ont plus d'habitat. Un millier d'espèces de libellules sur les 6000 existantes risquent tout simplement de s'éteindre d'ici quelques années. Alerte lancée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, où Florian Kirchner est chargé du suivi des espèces.
Cette étude agit un peu comme un signal d'alarme supplémentaire. La régression des libellules est fortement due aux impacts qu'il y a sur les marais, sur les rivières, sur les zones humides de manière générale. En fait, on les détruit pour faire des champs. C'est l'agriculture intensive qui crée ça. C'est vrai à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, pour la culture de l'huile de palme. Mais c'est vrai aussi chez nous, où on a quand même perdu 50% des zones humides en France pour étendre les zones urbaines et les zones cultivées. Les libellules jouent un rôle d'indicateur. Si elles sont aussi menacées aujourd'hui, ça nous alerte sur l'état de santé des zones humides. En fait, il faut savoir que ces écosystèmes très particuliers nous rendent beaucoup de services. Les zones humides nous aident à lutter contre le changement climatique parce qu'elles stockent le carbone. Comme elles absorbent l'eau, elles nous aident à lutter contre les inondations. Cette étude qui montre le déclin des libellules nous alerte sur l'état de santé général de cet écosystème et sur le fait qu'en fait, c'est toutes les espèces qui y vivent sont très probablement menacées.
Et au-delà des libellules, la barre des 40 000 espèces menacées d'extinction est franchie d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature. Un tiers des produits ménagers contient une quantité importante de substances potentiellement nocives, c'est ce qu'assurent 60 millions de consommateurs. Le magazine invite surtout à se méfier des lingettes désinfectantes pour WC et multisurface.
Les Françaises poursuivent leur sans-faute au Mondial de handball en Espagne.
Victoire face à la Pologne 26-16, quatrième succès de suite. Les voilà en position favorable pour une qualification en quart de finale, même s'il faudra confirmer lors des deux prochains matchs face à la Serbie samedi et la Russie lundi. Deux adversaires plus redoutables, Jean-Pierre Blimaud.
Les handballeuses françaises montent en puissance, mais le plus dur est à venir face aux Serbes et aux Russes. Mais les Bleus ont encore démontré hier soir qu'elles pourraient compter sur leurs points forts, souligne le sélectionneur Olivier Crumbles.
On a vraiment de gros atouts défensifs sur cette compétition. Par contre, il faut qu'on élève notre niveau en attaque.
Et dans ce secteur, Pauletta Foppa a tout de même fait parler la poudre, avec 5 buts en 5 tentatives. Mais la jeune pivot du Brest Handball note aussi quelques progrès parmi ses partenaires.
On a raté moins de tirs que les précédents matchs, mais on a plus poussé les ballons et en attaque placée. On a été tranchante, que ce soit les ailières ou les arrières de loin. Je pense qu'on a réussi à régler le tir.
Et il faudra encore faire mieux pour les deux derniers matchs de ce tour principal. Dans un groupe particulièrement relevé, c'est devenu une habitude pour les Françaises. Martel, la plus ancienne des Bleus, Alison Pinault.
On sait que depuis le début, de toute manière, on est dans la partie la plus difficile et que de l'autre côté, ça se la coule douce un petit peu beaucoup. Bah alors, ça fait partie du jeu, mais ça fait partie aussi de l'histoire de l'équipe de France qui, finalement, en étant championne du monde, championne tout ce que vous voulez, s'est toujours retrouvée finalement dans l'une des poules les plus difficiles des compétitions. Donc ça change pas d'habitude.
Le prochain adversaire, la Serbie, pourtant malmenée hier soir, a finalement battu une équipe du Monténégro très accrocheuse. Les Français sont prévenus. Granollers, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Et puis en football, l'Olympique de Marseille reversé en Europa Conference League après sa victoire 1-0 en Europa League hier soir contre le Lokomotiv Moscou.
Merci à vous Pierre Pilet pour ce journal. Dans 3 minutes, secret d'info sur le plan anti-pesticides. 800 millions d'euros dépensés pour rien.